Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web, UX writers, content designers, copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'utilisateur. Parce que nos métiers servent à dialoguer, à échanger avec un être humain. Gardez ça en tête. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Benjamin Perrin, concepteur, rédacteur et auteur de la newsletter Plumes with Attitude, dont je suis une fervente lectrice. Benjamin est passionné d'écriture et de lecture, passion qu'il transmet merveilleusement bien dans cette newsletter. Deux fois par mois, il interviewe une plume, comme il dit, écrivain, écrivaine, auteur, autrice de newsletter, copywriter, podcaster, UX writer, fondateur, fondatrice de start-up ou d'association, et j'en passe. Toute personne qui fait de l'écriture son cœur de métier, ou qui se saisit de l'écriture comme moyen d'influence et de développement. Et qu'on se le dise, l'écrit est vraiment partout et au cœur de toute création. Plumes with Attitude fait partie de la marque de Benjamin et génère quelques opportunités pour son métier de conception-rédaction. Et justement, l'identité de marque, ou la voix d'entreprise, c'est ce dont on va parler avec Benjamin. Ensemble, on revient sur l'importance de définir une voix, une identité, pour se faire connaître et reconnaître, pour porter ses idées, ses valeurs, pour développer son entreprise, sa marque ou son projet et perdurer dans le temps. Mais trêve de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Benjamin Perrin. Bonne écoute! Salut Benjamin! Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Mais de rien, merci à toi.
Benjamin, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es copywriter freelance et l'auteur de la très chouette et très qualitative newsletter Plumes with Attitude. Mon anglais est très nul.
Écoute, mais elle est faite un petit peu pour embêter sur la prononciation, donc tu peux y aller.
Et c'est vrai que je suis toujours impatiente de la lire quand elle arrive dans ma boîte mail et je pense que, enfin, je l'ai découverte avec l'interview de Camille Promera sur le UX writing et je suis devenue accro à partir du moment où tu as interviewé Marianne Ferrand qui est plume politique et qui écrit des discours pour des politiciens. Je trouve ça hyper, hyper fascinant, passionnant. En plus, à ce moment-là, j'étais en train de lire le livre de Barack Obama, donc j'étais en plein dedans.
Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une lectrice à la base.
Ah, mais c'est trop, c'est
et
trop
effectivement,
cool.
Il y a pour plusieurs personnes comme ça, certains lecteurs, certaines lectrices se retrouvent invités par la suite. C'est assez sympa.
Ouais, carrément. Et pourquoi t'as voulu lancer cette newsletter et comment, quand ça s'est fait? Comment?
En gros, le contexte, c'était à l'été 2019. Je l'ai lancé plus précisément en septembre. En gros, ça faisait 2 ans que j'étais dans mon job en start-up où je travaillais chez Comet et où j'étais concepteur-rédacteur. Donc, j'étais responsable de tout le contenu, tout le volet éditorial, le volet marque, le volet produit avec de l'UX writing aussi. Et en gros, j'adorais écrire. Mais je m'étais dit, c'est quand même dommage, j'adore ça. Et pour autant, c'est juste mon travail. Et c'est rien d'autre. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien commencer à écrire sur quelque chose, mais pour moi-même.
Un petit kiff personnel.
Ouais, voilà. Et alors, faut savoir que chez Comet, le premier exercice, enfin, même la première mission par laquelle j'ai été recruté, ça a été de créer la newsletter de la boîte. Qui d'ailleurs a eu son petit succès parce que c'était pas mal de curation de contenu sur pas mal de sujets, que ce soit l'entrepreneuriat, le freelancing, les mouvements technologiques. Donc c'était assez sympa et c'est quelque chose surtout que j'aimais beaucoup faire avec une certaine récurrence et avoir aussi les retours de l'audience et développer un petit peu une sorte de marque pour la boîte, et de développer une sorte de voix. Et du coup, je me suis dit, il y avait ce truc que j'aimais bien. En parallèle de ça, il y avait Substack qui commençait à bien monter aux US.
Ouais.
Donc, je me suis dit, franchement, ça a l'air d'être plus simple que jamais aujourd'hui de faire une newsletter. Donc, je vais me lancer. Et après, évidemment, il y a la question du sur quoi je vais écrire. Et j'ai pas réfléchi très, très longtemps. C'est venu assez naturellement. sur le fait que je voulais écrire tout simplement sur l'écriture, parce que c'est lié à mon histoire personnelle. J'ai toujours aimé lire et écrire, mais j'ai jamais trop su quoi en faire dans ma vie. Et alors j'ai eu un parcours scolaire qui était assez linéaire, où j'ai fait une prépa, puis une école de commerce, mais les débuts dans ma vie professionnelle étaient assez chaotiques. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, moi justement, c'est grâce à Camille Proméra que je découvre la conception rédaction. J'étais son stagiaire chez Deezer en 2013.
Le monde est petit.
Ouais, et c'est vrai que c'était un métier qui était assez rare chez l'annonceur à l'époque. C'est plutôt un métier de pub à la base, concepteur rédacteur. Et depuis, il y a eu tout le content marketing dans les startups. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs rejoindre une startup à mon tour. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez désarçonné et déboussolé par rapport à quoi faire de ça, parce que je pense que j'avais des qualités rédactionnelles déjà à l'époque et que j'aimais bien ça. Donc, a priori, ça aurait dû me sembler totalement naturel que c'était une voie à suivre dans ma vie. Sauf que, si t'es pas journaliste, si t'as pas fait de sub de pub, tu sais pas trop quel métier choisir. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est inspirer les fameuses plumes, les inspirer à la fois par des portraits de personnes que j'allais interviewer, mais aussi, et la base de Plumes de Latitude, à la base, c'était ça, c'était d'aller chercher carrément des offres en freelance, de les mettre sur le marché en public et faire en sorte que le fait de trouver des plumes pour qui écrire quand on est une entreprise, ce soit plus une affaire de j'ai une affinité avec telle plume parce que j'aime bien son style, j'aime bien ses idées, j'aime bien ses convictions, plutôt que le pote du pote ou alors c'est la personne que j'ai vu écrire là. Et du coup, je voulais qu'il y ait un petit peu plus de transparence sur le marché de la rédac en freelance et aussi en CDI.
C'est intéressant que tu dis qu'une entreprise fait appel à une plume pour son style. C'est quelque chose qu'on retrouve vachement, je trouve, dans tout ce qui est graphisme. On choisit un graphiste pour son style artistique. Mais je trouve que pour ceux qui écrivent, en général, on confie une mission, ils doivent s'adapter à un brief, à un style qui n'est pas le sien. Et en fait, c'est hyper compliqué de s'adapter, d'écrire pour une entreprise qui n'a pas du tout le même style que toi, en fait, qui ne correspond pas à la façon dont tu écris.
Le vrai problème, c'est que le style, en fait, c'est Google qui le donne, c'est le SEO. Et c'est souvent ça qui est pris en priorité par rapport à des vraies qualités rédactionnelles, une vraie qualité de réflexion. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que la newsletter s'appelle Plumes of Attitude. C'est que la plupart des boîtes recherchent juste des plumes pour sortir des mots et parfois même payent au nombre de mots, voire au nombre de signes, ce que je trouve personnellement absurde. Parce qu'en UX writing, t'es pas sans savoir qu'effectivement, plus t'es synthétique et du coup, moins tu vas faire de mots, mieux ce sera. Donc, ça veut dire que la personne devrait être moins payée, tu vois, c'est un peu chelou. La rédac a longtemps été sous-estimée par les boîtes. Mais moi, effectivement, mon credo avec Plumes of Attitude, c'est de faire en sorte qu'on réussisse à trouver son style, sa voix et effectivement de trouver des boîtes qui valent le coup et qui croient en nos capacités pour produire du contenu. Et même aujourd'hui, on voit de plus en plus de boîtes qui s'engagent sur de l'éditorial plutôt que seulement le SEO. Donc, le vent tourne. Je le vois déjà depuis le début de la création de la newsletter. Je trouve que l'écosystème a déjà pas mal changé. Donc, c'est une bonne chose.
Et au-delà de ça, du coup, ta newsletter, elle t'a fait avoir des opportunités.
Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait croire que c'est une stratégie qui est plutôt bien ficelée pour que je chope des missions freelance pour moi. Mais en vrai, c'est une newsletter que, comme je te le disais juste avant, je l'ai lancée en tant qu'employé. Donc, à la base, il y avait même des startups que j'allais voir en mode « Est-ce que vous aurez des missions freelance ?» Mais je leur disais « C'est pas pour moi, c'est parce que je crée une newsletter et du coup, j'aimerais bien donner des opportunités à mes futurs lecteurs. » C'est vrai qu'il y a eu deux moments quand on y réfléchit par rapport à ma trajectoire à moi. C'est que j'ai eu un moment qui n'a pas duré très longtemps, en vrai, où j'étais encore employé quand j'ai lancé ma newsletter. Donc, j'étais totalement désintéressé par ces offres. Et effectivement, il y a eu le moment depuis la fin 2019 où je suis devenu freelance, où là, effectivement, parfois on vient me proposer des offres, parfois on vient me voir moi, parce qu'on aime bien la façon dont j'écris, et on a envie que je fasse quelque chose. Et du coup, ce qui est assez bien, c'est que, en fait, si on vient m'écrire pour me proposer une mission, il y a très peu de chances pour que je dise non, parce que d'une certaine façon, je vais pouvoir aider la personne. C'est-à-dire que si je suis pas dispo, que la mission m'intéresse pas, ou que le prix est en dessous de ce que j'estime être ma valeur, bah, je peux toujours le proposer dans la newsletter, si bien sûr, c'est une boîte que je trouve intéressante, qui a un prix qui est décent, et qui voilà, qui a l'air de bien traiter les plumes, entre guillemets. Mais oui, effectivement, j'ai eu plusieurs opportunités. Et il y en a une qui a été assez significative récemment. C'est j'ai contribué à un livre sur lequel on m'a dit, c'est Adrien Chaltiel d'Eldorado qui était venu me voir et qui m'avait dit « Je suis en train d'écrire un livre sur le financement de l'entrepreneuriat en France. J'aimerais bien qu'il y ait un volet interview, comme tu fais dans ta newsletter. Du coup, j'aimerais bien que tu m'aides un peu à composer ce que j'appelle une programmation et interviewer ces personnes. » Et du coup, c'était assez chouette parce que non seulement on m'a contacté pour par rapport à ce que je fais dans la newsletter, par rapport à mon style d'écriture, ma façon de synthétiser, d'expliquer les choses, et aussi par le côté « Ah bah, tu choisis plutôt bien les gens, je pense que tu auras des bonnes idées, même de recommandations. » Et du coup, ça m'a permis d'interviewer des personnalités très sympathiques comme... Thibaut, le CEO de Back Market, Eva de Lita.co, j'ai eu Kat Borlongan aussi de la French Tech, j'ai eu d'autres entrepreneurs aussi moins connus, j'ai eu une freelance qui s'appelle Yesa Luca. C'était assez chouette et effectivement aujourd'hui la newsletter ça attire pas mal de belles opportunités, mais j'ai envie de dire que les plus grosses opportunités, je les ai pas encore eues, je pense. Et effectivement, là par exemple il y en a une qui arrive que je trouve qui est assez sympa, c'est la boîte Maria Schools, qui a récupéré Lyon, les activités Lyon et Maestro de The Family, et qui là lance une formation sur le storytelling, dont l'équipe fondatrice m'a contacté pour être l'un des enseignants. Donc c'est assez sympa parce que ça me fait aussi toucher à des univers que je connais pas forcément. Par exemple, genre j'ai jamais fait aucune formation ou quoi que ce soit. Parce que moi, c'est vrai qu'au final, et d'ailleurs, tu dois bien le savoir, quand t'es plume, c'est un métier qui est quand même assez solitaire. Et du coup, cette notion de transmission, moi, je l'ai un petit peu à travers Plumes of Attitude, mais je ne l'ai pas en direct avec les gens. Et du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner.
C'est marrant parce que t'es très ouvert à toutes les opportunités, même si tu sais pas faire, t'y vas, quoi. Tu te poses pas de questions, tu dis « Allez, ça va me faire kiffer et j'y vais ».
Alors, en vrai, c'est pas tout à fait ça.
On dirait, pourtant.
Je suis assez fermé. La plupart des missions, je les refuse. Et c'est juste que... moi, je fonctionne plutôt au coup de cœur de façon globale dans ma vie. C'est-à-dire que sur une boîte, sur un projet, si ça me plaît, j'ai envie d'en être. On va dire que je pense que je suis enthousiaste, ça c'est vrai. Mais je me définirais pas comme quelqu'un de hyper ouvert à toutes les opportunités sur le volet freelance. En fait, c'est vrai que si tu me dis ça, je pense que c'est parce qu'on en a déjà parlé. C'est vrai que je fais des missions UX writing, je fais des missions édito... Je fais du ghostwriting aussi, je fais des trucs pour la presse. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que j'ai plusieurs casquettes.
Ouais.
Je pense que d'une certaine façon, c'est un petit peu un défaut. Ça veut dire que j'ai pas trouvé, entre guillemets, le fameux product market fit. Mais bon, en même temps, moi, je trouve que c'est bien de voir, de tester sa plume sur différents exercices. Moi, je le prends vraiment comme ça. Hein. C'est à chaque boîte, chaque marque à développer, chaque format, c'est à chaque fois un nouvel exercice par rapport à mes compétences rédactionnelles. Et du coup, je trouve ça assez chouette, quoi.
Et c'est la diversité et les rencontres. Je suppose que tu aimes bien faire pas mal de rencontres.
Ce qui est assez marrant, c'est que ça a été un des jalons qui a été posé dès le début pour Plumes of Attitude. C'est que je me suis dit que la newsletter, ça allait être un prétexte pour rencontrer des gens et discuter avec eux. Et alors, au début, je pensais pas mal à des gens que j'admire. Ça a été le cas des premiers invités, comme Laetitia Vito, Anne-Laure Lequin, Kyle, de The Family. Voilà, ça a été une très belle opportunité aussi pour interviewer des gens que je connaissais pas forcément, mais que j'avais envie de découvrir. Et après, effectivement, il y a pas mal d'invités que j'ai invités parce que, effectivement, les rencontres se sont faites. On se connaissait pas forcément d'avant. J'avais pas forcément repéré pour telle ou telle initiative. Et du coup, en fait, on va pas dire que je fais ça pour les rencontres, mais c'est plutôt, je me suis forcé à le faire. Je trouve que l'interview aujourd'hui, c'est un des formats les plus intéressants de, et très sous-estimé de networking. Même ouais, si je déteste ce mot. Je déteste ce mot parce que je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est un peu ringard, un peu à l'ancienne.
En général, le networking, tu survoles un peu. Enfin, tu vois, tu vas rencontrer des gens, mais tu vas pas approfondir les échanges, tandis qu'en interview, c'est un format qui le permet.
Ouais, voilà, en fait, c'est plutôt le networking. Je trouve que c'est un petit peu un mot, voilà, networker pour networker. Ça, je trouve ça débile, quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'ai la même démarche dans ma newsletter. C'est-à-dire que je m'en fous un petit peu du nombre d'abonnés que j'ai. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qui est abonné. Et l'aspect un peu plus qualitatif et de savoir qu'effectivement, tu parlais de diversité tout à l'heure, je trouve que c'est aussi intéressant de réussir à toucher différents publics. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt une newsletter assez spécialisée quand on y réfléchit, c'est plutôt des gens dans la rédac, dans le market, qui cherchent à avoir un petit peu de nouvelle inspiration. Mais en fait, non, parce qu'il y a des journalistes, il y a des entrepreneurs, je sais qu'il y a même des sociologues, des historiens, enfin, c'est assez marrant. Et il y a, voilà, il y a des personnes, il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. C'est, je pense que c'est là où vraiment tu te rends compte si tu réussis à créer quelque chose où voilà, tu réussis à plaire à différents profils de personnes, donc qui ont différents types d'influences, différentes façons d'appréhender l'écriture. Parfois, il y a certaines personnes qui sont très renommées là-dedans et d'autres qui débutent à peine ou qui sont juste des lecteurs. Cette notion de surprise, ça me guide pas mal. C'est-à-dire que les semaines ne se ressemblent pas.
Mais c'est marrant parce que tu casses un peu tous les codes, je dis ça entre guillemets, parce que quand on est indépendant et quand on écoute ou quand on lit des ressources pour être un bon indépendant, pour pouvoir progresser et aussi avoir un bon chiffre d'affaires et durer dans le temps, généralement on dit il faut se nicher. Il faut bien travailler son persona, avoir un persona en particulier, avoir une cible particulière, avoir une niche particulière. Et toi, en fait, tu testes un peu tout et tu as différents types de clients, au final.
Moi, je trouve que cette façon de raisonner est totalement valable dans l'économie freelance, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que depuis le début de la newsletter, je m'intéresse pas mal au concept qui est né d'ailleurs un mois après la création de la newsletter de Passion Economy, où là effectivement la question c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est plutôt avec qui et qu'est-ce que tu vas amener. Et c'est-à-dire que je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que la petite touche entre guillemets Plumes Vue Attitude / Benjamin Perrin, je trouve que c'est intéressant de l'amener sur sur différents projets. En fait, je trouve que quand on y réfléchit, les formats changent, mais tu restes un petit peu le même. C'est-à-dire que mon style d'écriture, alors je sais m'adapter, bien sûr, mais en gros, ça va être plutôt un... Voilà, je vais l'utiliser pour des clients, des médias qui sont plutôt à peu près alignés avec ce que je pense. Je trouve qu'au contraire, il y a une certaine cohérence à aller dans des projets totalement divers. Et d'ailleurs, c'est ce qui me nourrit aussi à la fois pour ma newsletter et puis même pour ma vie au global, je trouve. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelances qui pensent argent, spécialisation, product market fit, tout ça. Et en fait, moi, ça me saoule vite, quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de parler de développer sa plume, de développer une certaine reconnaissance dans un milieu, une certaine réputation, de voir aussi avec qui tu pourrais éventuellement faire des choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a pas mal d'invités que j'ai eus, mais il y a des gens, j'aimerais bien travailler avec eux. Et alors, tu vois, on parlait des opportunités juste avant. Moi, c'est pas tant la question de sur quoi travailler, mais c'est aussi avec qui. Mm. Et c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt des bonnes personnes, enfin, que j'estime en tout cas par leur approche et leur projet, bah, c'est des personnes avec qui, ouais, je me verrais potentiellement bien, je sais pas, travailler sur une mission, monter un collectif, faire des choses comme ça. Mais après, je t'avoue que c'est pas du tout dans mes préoccupations du moment, mais bon, j'aime bien garder une petite place un petit peu pour cet imprévu, cette surprise, et voir où est-ce que ça peut me mener, quoi.
Je suis partie un peu loin. C'était pas du tout des questions qui étaient prévues, c'est ma curiosité qui a parlé, qui n'est pas du tout un vilain défaut. Parce que l'idée, c'était de parler plutôt d'identité de marque dans l'épisode. Parce que j'estime, et je pense que toi aussi, que pour écrire des articles, des emails et aussi des micro-contenus sur une interface, c'est vraiment important qu'une entreprise ait sa propre identité, sa voix pour marquer les esprits, se différencier, créer un sentiment d'appartenance, être reconnue parmi d'autres entreprises. Et en fait, on parle d'identité de marque, il y en a d'autres qui parlent de plateforme de marque, il y en a qui parlent de voix d'entreprise, et notamment en UX Writing, on parle de voix d'entreprise. Selon toi, est-ce que c'est différent ou ça se regroupe ou c'est la même chose? Et selon toi, c'est quoi une identité de marque?
Alors moi déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de noyer le poisson en parlant de plateforme, d'identité, de persona, de trucs comme ça.
Super.
Moi, je pense que là où tu as raison, c'est quand tu parles de voix. Enfin, le mot identité, le mot voix, le mot personnalité, c'est vraiment ça en fait. Ça veut dire, d'un point de vue personnel, à quoi elle ressemble cette marque. Et du coup, pour moi, il y a trois éléments d'une identité de marque. C'est un, le message, donc ce que tu vas dire. Le deuxième, ça va être la tonalité du message. Donc là, c'est là où nous, on intervient. Ça va être le style, la clarté, la concision, tout ça. Et le troisième, c'est aussi le média utilisé. Et ça, c'est notamment valable pour du marketing. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de boîtes qui ont une newsletter, qui ont un podcast, qui ont une chaîne YouTube. Il y a la fameuse citation « le médium et le message », pas le massage, de Marshall McLuhan qui est assez célèbre pour ça. Mais effectivement, les choix que tu vas avoir dans tes outils de communication vont dire quelque chose sur toi. Par exemple, pour des entrepreneurs qui sont plutôt introvertis, il y en a pas mal qui vont avoir plutôt une culture peut-être de l'écrit qui leur donne un petit peu plus le temps de poser leurs réflexions, voilà, d'avoir le temps de prendre des décisions, et peut-être qu'ils sont tout simplement plus à l'aise avec ça. À l'inverse, t'en as d'autres qui vont être plutôt extravertis et qui vont peut-être s'orienter un peu plus vers la vidéo, vers le podcast, vers l'audio. En fait, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est ces trois éléments qui sont à prendre en compte et qui font que on arrive à peu près à situer qui est cette boîte. Parce qu'au final, la question, c'est ça, c'est qui es-tu, quoi.
Ouais, carrément. Et je te rejoins pour le média, si on veut plus. Enfin, généralement, il y en a plein qui vont dire il faut être sur telle plateforme, faut faire telle chose, faut utiliser tel média. Mais en fait, c'est carrément ça. Il faut commencer là où on est le plus à l'aise, et puis on passe à l'action, et puis on verra.
Ouais, carrément. Bah, moi, je sais qu'on m'a déjà dit plus nos attitudes, que je considère comme mon produit. On m'a dit c'est trop long. Il faudrait que ce soit en audio, ça passerait mieux. Dit, ben ouais, mais on parle d'écriture, j'écris. Enfin, c'est juste normal, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, j'aime bien considérer ma newsletter comme un podcast écrit. Dans le sens où je trouve que les interviews qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus au format audio, ben, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un vrai plaisir à retrouver ça en format lecture. Et en vrai, il y a beaucoup moins de friction. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux copier-coller des choses, tu peux t'y reprendre à plusieurs fois. Enfin, c'est différent qu'avec un bouton play et tout, pause play de lecture. Enfin, je trouve qu'on a tendance à dire, effectivement, qu'avec un podcast, juste appuyer sur play et tout passe. Et en fait, non, tout passe pas, parce que parfois, t'as des idées qui sont vraiment profondes qui passent. Donc, non, ça nécessite de se poser, de prendre le temps de réfléchir à ça. Et moi, ce que j'aime bien avec le format interview à l'écrit, c'est qu'effectivement, tu as le temps, quand tu lis une édition, de lever ton nez de l'écran, de te dire « Ah, c'est pas mal ce qu'elle a dit. » Et voilà, à la rigueur, tu le notes, t'en fais quelque chose, peu importe, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment scinder, quoi. C'est pas quelque chose d'immédiat, tu peux y revenir et tout. Enfin,
ouais, c'est ça qui est bien, c'est le lecteur qui décide de faire une pause quand il en a envie, sans avoir besoin de cliquer ou quoi que ce soit, comme pour un podcast. Mais c'est vrai que ce format long, c'est, je pense, pour les gens qui veulent redonner du temps au temps, retrouver du temps, en fait. Et au moins, ton audience, elle est hyper qualitative, quoi. Ceux qui suivent, c'est ceux qui veulent consommer, j'aime pas trop ce terme-là, lire du contenu à un format long.
Bah après, encore une fois, ça... Effectivement, quand on parlait d'identité, il y a l'identité de la personne qui crée, mais aussi l'identité du lecteur. Et effectivement, il y a certaines personnes qui, sur certains sujets, préféreront de l'audio, sur certains préféreront lire, dans certaines langues préféreront de la lecture. dans de l'autre, ils préféreront de l'audio. Enfin, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, je pense que en tant que créateur, il faut aussi être un petit peu sûr de certaines de ses postures. Et c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je le dis, il n'y aura pas de podcast Plumes Vive Attitude. Enfin, non, ça me semble évident, quoi. Et même si parfois, effectivement, certaines personnes ont tendance à le demander, faut pas forcément les écouter. Et je pense que c'est ça aussi, avoir une identité assumée. De la même façon qu'on a une personnalité qui ne doit pas forcément être malléable par rapport avec qui on est, je trouve que c'est important de rester vrai et sûr de ses convictions. Et du coup, je pense que pour en revenir au sujet, les boîtes et les marques ont, elles ont tout intérêt à ne pas suivre effectivement la tendance, comme tu disais, aller sur Clubhouse alors qu'on n'a pas trop envie.
À la base, j'avais pas envie. On m'a pas laissé le choix et au final, c'est quand même pas mal.
En vrai, oui, ça dépend. Moi, effectivement, j'avais fait une interview sur Clubhouse avec justement l'école Hero là de Maria Schools et c'était très bien. Mais effectivement, ça veut pas dire que. Et encore, j'y ai songé. Je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un after show des newsletters où effectivement tu prends les questions des lecteurs sur Clubhouse. Mais encore une fois, c'est de l'investissement temps. Ouais. J'ai pas forcément envie de demander ça à mes invités en plus. Et en plus de ça, si les personnes ont des questions, elles peuvent contacter l'invité comme moi je l'ai fait pour les avoir dans la newsletter, quoi.
Ouais, c'est vrai que moi aussi je m'étais dit ça pourrait être trop trop bien après un épisode de podcast, une semaine après, de faire un événement sur Clubhouse où les gens peuvent poser des questions à l'invité. Mais ouais, c'est un investissement en plus pour moi et pour l'invité, quoi.
Il faut en avoir envie, en fait.
Ouais.
Et si tu fais juste ça parce que bon, c'est ce qui se fait en ce moment, je pense pas que c'est une très bonne idée.
Ouais. Pour en revenir à l'identité de marque, en fait, définir une identité, ça paraît quand même un peu abstrait. Concrètement, comment on fait ça? Et toi, comment tu le fais? Parce que il me semble que tu le fais assez régulièrement quand tu démarres une mission.
En vrai, je n'ai pas vraiment de règles par rapport à ça. J'en ai une qui est pas mal, mais ça vient d'une de mes invitées, qui est Camille Dubreuil, qui a un document qu'elle appelle le Swag Doc, qui est assez sympa et que j'ai tendance à réutiliser avec certains de mes clients. Ça permet de mettre justement un petit peu des mots sur la personnalité d'un entrepreneur, d'une boîte, de choses comme ça. Et effectivement, c'est une sorte de portrait chinois. Enfin, je trouve que c'est ce qui s'en approche le plus. Genre, par exemple, si ton entreprise était un plat, si ton entreprise était un film. Et du coup, c'est assez marrant parce que je pense que le point de départ, c'est, encore une fois, c'est l'identité des personnes qui font cette entreprise. C'est-à-dire que la plupart des boîtes ne marcheraient pas autant si les personnes qui la portaient n'étaient pas ce qu'elles sont. Et je pense par exemple à Product Hunt, moi que je cite tout le temps, qui est ma référence ultime, ou Ryan Hoover, c'est quelqu'un qui est vraiment un fan de produits. Il adore tester les dernières petites applications dont on parle sur Reddit, il adore parler avec des makers, il adore être sur Twitter, et en fait, c'est vraiment une marque qui, pour moi, a réussi à créer une image vraiment cool, mais tout simplement parce que ce mec est trop cool. Et vraiment, tu écris à ce mec sur Twitter, dans un tweet, il te répond. Et il va être totalement franc, totalement naturel. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'une identité de marque, ça part de ces personnes qui veulent créer cette marque. Et donc, comme je te disais, ça vaut comme les médias dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, une personne qui est plutôt introvertie, et ça sert à rien de faire une marque qui va être un peu exubérante, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, Elon Musk, par exemple, qui est assez exubérant, c'est totalement logique que Tesla ait ses petits côtés un peu fous, notamment même dans le design du truck là qu'ils avaient fait il y a un an ou deux. C'est normal, en fait, qu'ils soient audacieux. Mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont des introvertis et des entrepreneurs qui, par exemple, sont plutôt introvertis ou alors un peu plus sobres dans leur démarche et qui vont prendre en exemple des Steve Jobs ou des Elon Musk. Pour moi, c'est une très mauvaise idée, en fait. Il vaut mieux plutôt s'inspirer de gens qui nous ressemblent d'une certaine façon. Et du coup, c'est vrai que si on est une personne plutôt discrète, et ben peut-être qu'effectivement, il vaut mieux que la marque de l'entreprise soit discrète. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle ne va pas plaire, en fait. C'est-à-dire, le marketing et le développement de marque, c'est pas la course à l'exubérance, en fait.
C'est clair. Par exemple, si je suis une boîte, voilà, je me pose pour définir mon identité de marque, par quoi je commence ?
Bah, en gros, je pense que il y a un long travail où la personne qui va écrire pour cette marque va devoir, et généralement, ça va être soit une équipe marketing, soit quelqu'un en extérieur, il y a un long travail, selon moi, d'analyse qui est vital. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la personne, comprendre les motivations qui font que cette personne crée cette boîte, dans laquelle tu vas aussi comprendre les valeurs d'une personne, d'un entrepreneur. Et moi, ce qui est assez marrant, c'est que ce travail, je l'avais fait chez Comet, où c'était ma première mission de conception rédaction, et où je faisais notamment un petit peu de ghostwriting pour le CEO. Et en fait, le ghostwriting, quand on y réfléchit, je trouve que dès le moment où tu n'écris pas pour toi, tu fais du ghostwriting. C'est-à-dire que, par exemple, quand toi, tu écris pour un client, mais que c'est juste la marque, ou même tu vas écrire sur une interface, au final, tu n'écris pas pour toi. Ce n'est pas tes idées, tout ça. Donc, tu vas te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, tu as une sorte, comment dire ça, c'est pas une introspection, mais c'est un petit peu c'est une vraie étude. Enfin, c'est Kyle Hall de The Family, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit que un bon ghostwriter, c'est quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute et qui va vraiment faire attention à ces petits détails, que même la personne, la façon dont elle dit les choses, elle fera même pas attention à ça parce que ça lui semblera naturel. Mais si toi, tu relèves un petit peu ces détails, que telle personne, elle aime tel mot et tout ça, en fait, tu vas te rapprocher, parce que quand tu fais du ghostwriting, c'est ça qui est hyper intéressant comme exercice. Le but, c'est d'écrire quelque chose que la personne pourrait dire, ah, ben, j'aurais pu l'écrire moi-même. Et c'est ce que Kyle me dit, effectivement, là où il réussit, c'est quand une des personnes de The Family lui dit, c'est exactement ce que je voulais dire. Et tu l'as écrit avec les mêmes mots, la même façon, et c'est ça l'objectif. Et donc, pour moi, ce travail, c'est ce que tu dois faire, en fait, avec une marque. Par exemple, moi, j'adore les tests de personnalité. Les tests de personnalité, je trouve ça trop drôle. Et très vrai, des trucs comme le MBTI, je trouve que c'est... Moi, je l'ai déjà fait dans des workshops chez Comet pour faire un rebranding de Comet. En mode où tu fais le test et tu dis, voilà, si j'étais Comet, je réponds comme si j'étais Comet. Et alors, tu fais ça toi-même. Tu dis au fondateur de le faire, tu dis à d'autres personnes de le faire, et en fait, tu vois un petit peu ce qui ressort. Et souvent, si t'es bon, les réponses, tu vas avoir les mêmes. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. En fait, pour moi, il n'y a pas de secret. Le vrai enjeu pour créer une identité de marque, c'est de cerner la personnalité qu'on cherche à montrer. C'est-à-dire que c'est à la fois de cerner ce que c'est que le message, la façon dont tu vas le déployer. Et encore une fois, je parlais de médias, mais quand je disais médias par rapport aux plateformes, podcasts, tout ça, vidéo, audio, mais c'est aussi quel média, c'est quelle initiative. Quelle initiative marketing fait que, ça c'est nous. Par exemple, Jean-Charles Samuelian, pour Alan, il a sorti un livre, sa newsletter, elle est à son nom. Là, c'est des choses qui ne sont pas anodines, en fait.
Ouais, et j'ai vu que dans leur kit presse, notamment, Alan a 5 valeurs et c'est les 5 piliers du livre qu'a sorti Jean-Charles Samuel.
Ouais. Et c'est cohérent, en fait. Je pense qu'il faut toujours chercher la cohérence. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je disais aussi qu'il faut une vraie cohérence entre la personnalité de l'entrepreneur et l'identité de la marque. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être faux parce que ça finit toujours par... Et d'ailleurs, il y a eu des drames comme ça. C'est-à-dire que l'affaire WeWork, quand on y réfléchit, c'est exactement ça. C'est la personnalité assez machiavélique, d'une certaine façon, d'Adam Newman, qui a complètement desservi la marque, qui véhiculait un autre message. Quant à cette distorsion, cet écart entre les deux, généralement, ça couaque, en fait. C'est souvent comme ça dans la vie, en fait. Il faut toujours aussi une cohérence avec ton métier, ta personnalité et tout. Moi, je suis plutôt de cette école.
Et ça, au final, ça signifie aussi de s'assumer, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est quand même une mise à nu, en fait, quand tu travailles ton identité de marque, je trouve.
Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais.
C'est exactement ça. mais en même temps, la marque aujourd'hui, enfin... Il y a pas mal de boîtes qui sont assez réticentes à ce genre d'effort, mais c'est parce qu'elles y croient pas, alors qu'aujourd'hui,
Enfin, qu'est-ce qu'elles ont à gagner en travaillant leur identité de marque, selon toi ?
Ben, pour moi, c'est un avantage concurrentiel qui est non négligeable. Dans le sens où c'est tellement lié à tout. C'est-à-dire que la marque, quand il réfléchit, c'est ce qui fait que la presse va parler de toi, c'est ce qui fait que les clients vont t'acheter, c'est ce qui fait que les investisseurs vont te backer, c'est ce qui fait que des employés vont te rejoindre. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner ? Tout. Je pense qu'il y a un amalgame qui se fait entre travailler sa marque et créer une marque mirobolante à la Apple ou Tesla. Mais non, c'est pas le cas, en fait. C'est juste, effectivement, avoir ce degré de recul qui fait que, alors peut-être que tu vas te mettre à nu, pourquoi pas, mais qui est que, voilà, tu vas un petit peu te connaître toi-même. Et pour moi, une entreprise doit faire ça.
Et souvent, on attribue l'identité de marque au marketing. Alors, je trouve que c'est quand même une erreur parce que, pour moi, définir une identité de marque, c'est déjà du design, en fait. C'est concevoir une identité, une voix d'entreprise. Et la dernière fois, on en parlait quand on a échangé ensemble pour préparer un peu l'épisode. Selon toi, en quoi les méthodos du UX writing aident à construire une marque ?
En fait, quand on y réfléchit, je trouve que... Et c'est marrant que tu parles du design parce qu'effectivement, c'est pleinement dans la réflexion. Entre rédac et design, c'est les copains, quoi. Pour moi, ça va être une question des signaux que tu renvoies. Que ce soit dans ton design, que ce soit dans le choix de tes mots, ou que ce soit dans, ben, justement, le choix du média que tu utilises, tu vas envoyer certains signaux. Où effectivement, il y a des références auxquelles tu vas te raccrocher, d'autres auxquelles tu vas t'opposer. Et souvent, par exemple, il y a des boîtes, une très bonne façon de construire une marque, c'est en opposition par rapport à une autre marque. Moi, je trouve que, par exemple, il y a une boîte qui a vraiment bien réussi son coup à ce niveau, c'est Backmarket. Parce que quand on y réfléchit, Backmarket, et ils sont très bons d'ailleurs en UX writing, ils ont toujours des petits détails sur le produit, c'est toujours assez sympa, un peu à la Citymapper.
J'ai mis une petite... Enfin, parfois, l'humour, il est un peu au détriment de la compréhension, tu vois, de Backmarket, je trouve.
Ok, je ne connais pas dans le détail, mais effectivement, moi, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que Backmarket, quand on y réfléchit, le produit, c'est des appareils reconditionnés, ce qui fait que, d'une certaine façon, le concurrent d'acheter son téléphone sur Backmarket, le concurrent, c'est Apple, c'est Samsung, c'est toutes les marques de téléphonie, plus toutes les marques d'audio... c'est Dyson, enfin, c'est assez ouf quand on y réfléchit. Et du coup, Backmarket, en fait, ils n'ont pas le choix que de créer une marque vraiment cool. Parce que quand tu es face à Apple, ben, il faut que tu te différencies d'une certaine façon. Je trouve que ce qu'ils ont bien réussi à faire, c'est qu'ils vont créer une narration dans laquelle c'est encore plus cool d'acheter un produit Apple chez eux qu'un produit Apple neuf. Parce que c'est plus dans l'air du temps. C'est plus... alors, effectivement, c'est meilleur pour la planète, tout ça. C'est mieux aussi parce que t'as pas vraiment besoin de claquer un SMIC dans un iPhone 9. Il y a vraiment une réflexion à la fois design, à la fois sur la copie et en même temps une réflexion dans le produit qui fait que c'est vraiment une marque qui, pour moi, a réussi à aller chatouiller un peu les poids lourds sur leur terrain, quoi.
Ouais, ils ont rendu cool et sexy le reconditionnement, quoi.
Ouais, alors qu'au final, ils pourraient faire ça de façon tout à fait ennuyante. Quand on y réfléchit, le reconditionner, c'est pas hyper sexy. Hein. Il y a pas mal de boîtes comme ça qui réussissent à faire un petit peu, et c'est un petit peu ça la magie du marketing. Et, alors parfois, effectivement, c'est pas utilisé à bon escient, mais je trouve que c'est quand même assez chouette. C'est une question de valoriser en fait ce qu'on fait. Ouais, je trouve c'est un très très bon exemple parce que quand on y réfléchit, Apple, ils ont une marque qui s'adresse pas à tout le monde. Quand on y réfléchit, les gens ont envie de s'y identifier, mais ça s'adresse pas du tout à tout le monde. Alors qu'un Backmarket, non seulement ça s'adresse pour moi un peu plus à tout le monde, ça s'adresse un peu plus à toutes les bourses aussi, et ça s'adresse aussi un petit peu aux enjeux sociétaux du moment.
Et quand on a défini son identité, sa voix, comment on décline en fait en principe, en règle d'écriture, enfin en écriture tout court ?
Il y a plein de façons. Moi, je pense que déjà la meilleure façon de bien la décliner, c'est d'avoir une proposition de valeur hyper claire sur ton produit, sur ton site, sur tes réseaux sociaux. Et pour moi, en fait, c'est une pyramide. C'est-à-dire qu'effectivement, si les bases sont solides, après, tu peux t'amuser un petit peu plus. Mmh. Et donc, la première chose sur lesquelles... D'ailleurs, sur lesquelles, c'est pas toujours si évident que ça. J'ai travaillé plusieurs fois sur des créations de sites. C'est très douloureux, alors qu'on parle de sites Internet, alors que les boîtes, elles font des produits de fou. Mais un site Internet, c'est encore très compliqué aujourd'hui à faire. Et il y en a certains qui sont même très mal faits. Où ça copie dans tous les sens les landing pages de un tel et un tel, où ça prend les petits hacks piochés chez je ne sais quel néo-influenceur. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, si tu construis des fondations solides, comme je te disais, bah, c'est seulement après où tu vas te sentir à l'aise pour aller explorer autre chose. Il faut garder en tête, encore une fois, cette fameuse loi de Pareto qui fait que bah, c'est 20% de l'effort qui va donner 80% du résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu cherches à étendre ta part de marché et que tu vas faire 10 expériences marketing, 9 sur 10, voilà, tu vas te casser les dents et au final, il y a un petit truc que tu vas faire bien, un tout petit détail qui, là, va faire en sorte que ça marche de folie, quoi. Et un des exemples assez marrants sur ça, bah, c'est le fameux envoyé depuis mon iPhone qu'Apple avait mis et qui, je trouve, est assez génial dans les paramètres d'email. C'est d'un point de vue market, il suffit juste d'y penser. Et en vrai, ça vaut toutes les campagnes AdWords du monde.
Ouais. Du coup, tout à l'heure, on parlait du fait que, je ne sais pas le sens de cette phrase, l'entrepreneur incarne la marque ou la marque incarne l'entrepreneur.
Bah, en fait, encore une fois, s'il y a une question de cohérence, ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que la marque... Enfin, l'identité de marque, si on veut être précis, doit être cohérente avec la personnalité de l'entrepreneur. Et inversement, en fait, il y a un sujet dont c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de parler, qui est ces fameuses marques personnelles aussi, que développent les entrepreneurs. Et on parlait d'Elon Musk, il a sa marque à part entière. Il va quand même fumer des joints chez Joe Rogan en interview, où il va miser sur le Dogecoin. C'est quand même assez osé, on va dire. Et ça, en fait, cette marque, elle doit pas forcément être cohérente avec celle de l'entreprise, mais effectivement, il vaut mieux qu'elle serve les intérêts de l'entreprise. Donc la cohérence doit se faire, pour moi, des deux côtés.
Et au final, quand tu as créé une identité, le tout, c'est de faire en sorte que tes collaborateurs l'utilisent et s'adaptent à elle, en fait. Et comment tu fais pour la diffuser? Comment tu fais en sorte que les collaborateurs de la boîte s'en emparent et l'appliquent dans leur contenu, dans leur métier de tous les jours?
Bah, moi, je pense que c'est quelque chose qui, généralement, se fait assez naturellement. C'est-à-dire que si tu aimes bien travailler à un endroit et que tu as envie que, notamment dans le cadre d'une start-up, tu as envie qu'elle réussisse, à boucler un second tour, un second tour d'investissement, à pénétrer tel marché, ainsi de suite. Bah, généralement, si tu es bien où tu es dans une entreprise, bah, tu vas être un peu saucé quand il y a des bonnes nouvelles et tout. Donc, l'idée, moi, je pense, par rapport à l'identité de marque, tu peux les impliquer, les salariés, dans l'identité de marque. Je pense que notamment quand tu fais un travail de refonte où tu remets tout à plat, je pense que c'est assez intéressant de prendre un petit peu le pouls de la perception de ta marque et de ton entreprise par tes salariés. Et ce qui est notamment assez intéressant, ça va être de voir, par exemple, entre un sales, une personne qui est en dev et une personne qui bosse en finance ou en RH, comment cette perception de la marque, est-ce qu'elle va différer? Est-ce qu'elle va se rejoindre sur certaines choses? Alors, de un, je trouve ça assez cool d'impliquer les gens. Alors, attention, moi je dis toujours attention, parce que sur l'écriture, le design ou tout métier sur lequel les gens aiment bien donner leur opinion, il faut savoir être sûr de ses opinions. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est-à-dire que si t'es designer, c'est toi l'expert, quoi. Il y a toujours ce cliché qu'on veut mettre le logo plus gros ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens à qui soit ton design, soit ton slogan, soit ton nouveau site internet, il y a toujours des gens à qui ça plaira pas. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement Airbnb, quand ils avaient refait leur logo, je sais pas si tu vois le bello là, le petit épingle là. Au début, ça jasait. Enfin, les gens comparaient ça à des choses. Enfin, il y avait des mèmes, c'était assez absurde. Tout le monde disait, mon Dieu, quel gros fail. Alors qu'au final, ça a été adopté et tout le monde a fini par aimer. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié le logo d'avant d'Airbnb. En fait, généralement, quand tu fais du design ou de la brand, de l'écriture, des choses comme ça, il faut que tes choix semblent évidents a posteriori. Mais pour moi, ça l'est jamais avant. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un petit peu le juste milieu entre le fait d'impliquer des salariés d'une boîte dans un rebranding et aussi le fait de choisir, quoi.
D'assumer ses choix.
Ah ouais, d'assumer ses choix, parce que c'est toujours une question de goût, en fait. Heureusement que tout le monde n'a pas les mêmes goûts et heureusement d'ailleurs qu'il y a une diversité d'opinions dans une boîte. Je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, généralement, les boîtes qui font des énormes fails de rebranding ou qui ont utilisé un mot, mais il y a souvent des couacs où effectivement, soit pour des femmes, soit pour une minorité, soit pour des personnes d'un background différent, l'interprétation d'un mot ou l'interprétation d'un design ou d'une chose comme ça, ça va être hyper mal pris. Et en fait, généralement, quand il y a des choix qui sont faits et qu'effectivement ça crée un tollé d'un point de vue communication, ce qui a été fait, ça en dit long sur la diversité dans une boîte. C'est-à-dire qu'effectivement, ok, donc tout le monde pense pareil, donc tout le monde a fait les mêmes écoles, les mêmes études. Mais il y a beaucoup de couacs en communication et parfois c'est juste du bon sens en fait.
Mais au final, je pense que le bon sens, c'est l'une des compétences peut-être les plus difficiles à développer.
C'est marrant, c'est Grégory Pouy qui a le podcast Vlant, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps et qui me disait que j'avais demandé c'était quoi un petit peu le secret un petit peu de son choix des invités, c'était quoi sa petite sauce secrète quoi. Il m'a dit, je pense qu'en fait, je suis quelqu'un qui, tout simplement, qui a du bon sens. Les questions que je me pose, probablement qu'il y a d'autres personnes qui les posent aussi. Non, alors, c'était pas sur le choix des invités, c'est sur le choix des questions que je lui ai demandé ça. Et il m'a dit, en fait, mes questions, quand on y réfléchit, elles ont rien de sorcier. C'est plutôt des choses qui, effectivement, quand on s'intéresse à un tel sujet, et quand on écoute les gens, qu'on a l'habitude de parler de certains sujets avec ses amis ou d'autres personnes inconnues, peu importe d'où, on se dit effectivement, c'est ça qui remonte. Enfin, je pense que c'est un petit peu le fait de savoir prendre un petit peu le pouls, comme on disait tout à l'heure, de prendre la température sur certains sujets. Et c'est vrai que le bon sens, déjà, je pense que le bon sens, c'est quelque chose qu'on développe en écoutant aussi un peu les autres. C'est-à-dire qu'en étant ouvert à différentes sensibilités, on va se dire, effectivement, peut-être que là, ce nouveau nom pour mon entreprise, c'est peut-être une connerie. Et je pense que c'est très bien d'avoir de la conviction, mais il faut savoir faire ce juste équilibre entre le fait de demander l'avis des gens et de savoir trancher.
Et je me demandais, il y a de plus en plus de boîtes qui partagent leur voix d'entreprise et tout ce qui est guidelines autour de la voix d'entreprise, notamment dernièrement, c'était Doctolib, j'ai vu passer leur tone of voice. Tu penses quoi de ça ? Pourquoi en fait diffuser ? Pourquoi mettre en ligne en fait ?
C'est un très bon outil de recrutement généralement. Généralement, c'est quelque chose qui est fait dans le design, si je ne me trompe pas. Et je trouve que ça donne un peu une certaine philosophie. Enfin, je pense que l'écriture et le design. Enfin, moi, par exemple, je déteste mon industrie. La conception rédaction, je trouve qu'il y a des choses très mauvaises qui se font. Et vraiment, je trouve que le niveau général n'est pas forcément haut. Moi, mes références, je vais plutôt aller chercher du côté du bon journalisme ou des gens qui sont soit dans la presse, soit qui sont des gens, par exemple, qui ont leur propre newsletter, les choses comme ça. Mais tout ce qui est conception rédaction, je trouve que je suis assez. Il y a pas mal de best practices de l'industrie que je trouve absolument ridicule. Et donc j'ai oublié ma question parce que je partais en croisade. Mais tu vas me la répéter.
C'était les entreprises qui publient. Ouais.
Si, pour moi, ça me semble assez stratégique. Et je pense que il y a certaines boîtes aussi qui ont certaines valeurs de transparence. Pour moi, la transparence, c'est typiquement, c'est un parti pris pour créer sa marque. Par exemple, c'est Front, que j'avais récemment cité quand on m'avait interviewé sur mes références en termes de communication de CEO. Et Mathilde Collin de Front, elle est très dans la transparence. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple d'une personne qui, en tout cas, de ce que je peux en voir, a l'air plutôt introvertie qu'extravertie, et qui réussit à aligner totalement la communication avec une communication voilà, qui est assez sage, qui est toujours mûrement réfléchi, qui est toujours très bien fait, et qui du coup va jouer la carte de la transparence, et ça va lui servir à la fois pour les levées de fonds, pour le recrutement et tout. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. En vrai, il n'y a rien de pire quand on est en rédac ou en design de se retrouver dans une boîte où la philosophie et le style que tu ne vois pas toujours en extérieur, eh ben, c'est pas du tout ton approche. Mmh. Et ça, je trouve que le fait de mettre un petit peu façon Doctolib ces process, que ce soit en termes de design, d'écriture, même de diversité, d'inclusion, c'est des trucs qu'on retrouve vachement en RH aussi. Mmh. Là, je trouve qu'il y a moins de surprises. Et je trouve qu'éliminer la surprise à ce niveau, bah, c'est bien, parce qu'en fait, quand tu t'engages sur un CDI ou des choses comme ça, c'est difficile de démissionner assez rapidement. Parfois, il y a des gens qui trouvent ça encore très mal vu, alors que pour moi, c'est quelque chose, au contraire, moi, faut démissionner très vite et se remettre vite dans le droit chemin, quoi. Donc, pour moi, c'est une démarche honnête, donc pour moi, c'est une bonne démarche.
Ouais. Je vois le temps qui tourne. On arrive sur les questions de fin, à moins que tu aies des choses à ajouter sur nos échanges.
Ben non, écoute, moi, je réponds à tes questions.
Okay, parfait. Dans ce cas-là, si tu devais résumer justement nos échanges, on retient quoi de tout ça?
Moi, je pense que quand on parle d'identité de marque, de communication, de marketing, je pense qu'il faut être assez réaliste et assez honnête par rapport aux valeurs qu'on défend, au marché qu'on vise, par rapport à... En fait, je pense qu'il faut... Généralement, ce qui marche bien, c'est de rester dans le vrai, en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien de chercher à créer le prochain Apple si on n'est pas soi-même un fou comme Steve Jobs. Ça sert à rien de s'influencer de personnes complètement borderline comme Elon Musk si on est quelqu'un de plutôt droit dans ses bottes. Enfin, je pense qu'il faut être assez honnête, assez réaliste et d'accepter la façon dont on est. Et en fait, je trouve que c'est marrant, j'aime beaucoup lire les écrits sur qui comparent les extravertis et les introvertis. Et effectivement, quand on y réfléchit, la décennie passée, on a l'impression que c'est beaucoup les extravertis qui gagnent. C'est-à-dire que c'est souvent ça, le profil du CEO de start-up ou de la CEO de start-up, des entrepreneurs à succès. On a toujours l'impression que c'est les extravertis qui sont un petit peu à la tête de tout ça. Mais en fait, c'est faux. Moi, je pense que c'est les gens, de façon globale, se forcent à se donner une image d'extraverti et essaye de toujours donner dans la surenchère, et aussi parce que bah voilà, les réseaux sociaux, tout ça, font en sorte que plus on est clivant, plus on va générer de l'engagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit certains bad buzz de campagnes de communication de certains produits, on se demande parfois si ça n'a pas été fait exprès. Et moi, je suis souvent convaincu que si, en fait. Et même en politique, d'ailleurs. Donc voilà, j'aurais tendance à dire... Rester honnête, c'est ce que je fais, c'est ce que je conseille à tout le monde de façon globale dans sa vie. Et ça vaut aussi pour la construction d'une marque, pour la construction de son propre média. Enfin, je pense que voilà, ça sert à rien d'aller vers ce qui nous ressemble pas.
Mmh. L'honnêteté, ça paye toujours.
Mais je pense, ouais. J'ai envie d'y croire, ouais. En tout cas.
Est-ce que tu as des ressources à partager pour monter en compétence ou pour créer son identité, sa voix d'entreprise?
Alors, il y a un blog qui est assez cool, moi que j'aime bien, qui est très très quali par une agence qui s'appelle Animals, avec un Z à la fin, qui est une agence de branding new-yorkaise, qui est très très chouette. Il y a une autre boîte qui est très bon pour mon identité de marque, c'est Sandwich, anciennement Sandwich Vidéo, qui a fait toutes les vidéos d'Airbnb, Stripe, voilà, Product Hunt, toutes les boîtes contre marché à Silicon Valley. Le vrai conseil que je devrais donner pour moi, c'est de trouver un petit peu ses propres rôles modèles. C'est-à-dire quand on est entrepreneur, arrêter encore une fois d'idolâtrer les plus connus, à façon Elon Musk et Steve Jobs, et plutôt aller vers des gens vraiment s'intéresser au sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de gens, que ce soit sur leur marque personnelle, la marque de leur boîte et leur façon de communiquer au global, on va se sentir un petit peu des atomes crocheux. Moi, par exemple, typiquement, j'adore Product Hunt et je pense que Product Hunt, c'est une des boîtes qui a le plus inspiré plus de attitude. Mm. Parce qu'effectivement, il y a un vrai côté petite chasse à la fois aux invités, chasse à la... À, aux dernières découvertes, aux dernières recommandations. Je veux aussi chasser les actus des lecteurs, parce que c'est pas assez souvent qu'on me dit « Ah tiens, je fais ça, est-ce que tu peux le mettre dans la newsletter ?» Moi, en termes d'identité de marque, à mon échelle et sur mon produit, qui est du coup ma newsletter, bah, je pense que des boîtes comme Product Hunt ont eu une influence, mais considérable, et bien plus que tous les conseils que j'ai pu lire sur comment créer sa marque. Mais bon, après, sinon, si on veut des conseils un petit peu plus actionnables, il y a toujours First Round qui est toujours excellent. First Round, la librairie du YC, de Y Combinator. Ça, c'est toujours une bonne idée. Et Andreessen Horowitz, bien sûr. Et voilà, mais sinon, voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller aux gens d'aller dans la recherche d'inspiration et de la prise de référence, plutôt que je cherche une solution à mon problème maintenant, du coup, je vais chercher ça sur Google. Pour moi, je pense que cette question d'inspiration, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, en fait. Et effectivement, je pense à, par exemple, j'avais interviewé Thierry Keller d'Uzbek Erika. Moi, je me souviens, il m'avait dit un truc que j'adorais, c'est qu'il aime bien humer l'air du temps. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi pas mal d'œillères par rapport à leur industrie, et qui effectivement, parce qu'ils font du B2C, ils vont pas du tout regarder ce qui se fait soit en B2B, soit en communication institutionnelle, soit en politique. Enfin, je pense que les influences, elles sont un petit peu partout, et c'est à chacun de faire son petit micmac. Et c'est pour ça que Twitter est vraiment bien, d'ailleurs, parce qu'on peut d'une certaine façon bookmarker tout ça et y revenir quand on le souhaite, quoi.
Ouais. Et si t'as un conseil ou plusieurs pour écrire des contenus compréhensibles et utiles, ce seraient lesquels ?
Ben, moi, je pense que justement, aller sur Twitter, c'est un très bon conseil. Moi, je trouve qu'en copywriting, le fait d'avoir cette limite de caractère, ça te force à être succinct. Et moi, je le suis depuis quelques années déjà, et je suis convaincu que c'est un des médias qui m'a vraiment aidé à être synthétique et à faire mon métier comme je le fais aujourd'hui. Donc, je pense que dans mes conseils, il y a aller sur Twitter. Et sinon, en conseil un petit peu plus pragmatique, moi, j'insiste toujours sur le choix des mots. Je pense que c'est assez important. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un petit peu la plus petite unité de ton texte. Et en fait, chaque mot, moi, je sais que je l'ai choisi avec soin. Et c'est quelque chose qui... Les gens ne font pas forcément attention à ça, mais c'est vraiment ce qui va changer une lecture chiante ou passable à une lecture agréable. Ça va être dans le choix des mots que tu utilises. Et d'autant plus que ça va t'apporter de la précision, de la conviction, une certaine force de persuasion. Donc voilà, j'aurais tendance à bien choisir ces mots. Et enfin, une dernière chose, et c'est notamment parce qu'on est dans ton podcast que je dis ça, c'est d'éviter tout ce qui est jargon, en fait. Ouais. Le métier du UX-writer, au final, c'est ça. C'est vraiment avoir un langage qui est accessible au plus grand nombre et de faire en sorte que voilà, de pas... parce que je trouve que dès que tu parles de jargon, c'est exactement l'inverse d'une démarche d'inclusion, c'est une démarche d'exclusion. Mm. C'est-à-dire que si tu connais pas cet acronyme, cet anglicisme ou ceci, cela, ben, direct, la personne va se dire « Ah, mais ouais, mais c'est-à-dire que c'est pas pour moi » ou alors « Est-ce que je suis pas au niveau et tout ?» Moi, c'est d'ailleurs un des trucs que je reproche à la crypto. Je m'y intéresse pas mal et je trouve que c'est très, très jargonneux. Alors, je sais pas si on dit jargonneux, mais... Et pour moi, c'est un vrai problème parce que la crypto, qui est souvent présentée comme l'Internet de demain, ben, on a un petit peu l'impression, avec tous ces jargons, tous ces vocabulaires comme ça, que c'est juste pour des happy few, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est probablement ce qui nous attend tous. Donc j'aurais tendance à dire ça, voilà. Aller sur Twitter, éviter le jargon et bien choisir ses mots.
Ok, top. Bah, dans ce cas, j'allais te poser la dernière question où te suivre, te contacter, donc sur Twitter.
Ouais, on peut me retrouver sur Twitter. Évidemment, la meilleure façon de me contacter, c'est par Plumes Vue Attitude. Donc il y a mon email à l'intérieur. En plus, je pense que c'est plutôt des bonnes lectures, donc... Il y en a un peu pour tout le monde. Et puis sinon, LinkedIn. Et puis surtout, voilà, pas hésiter. J'aime bien rencontrer les gens qui me lisent ou alors qui ont entendu parler de moi et tout. Et du coup, voilà, je réponds à tout le monde. Et même, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Un grand merci à Benjamin pour ces échanges. Je vous conseille vivement de vous abonner à sa newsletter Plumes with Attitude. À chaque édition, je découvre des parcours et des idées inspirantes, des créateurs et passionnés de tous horizons, auxquels je ne me serais jamais intéressée sans cette newsletter. Cela m'inspire pour ma propre activité, me fait me questionner et avancer. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode et ressources citées sur mon site apollinerousse.fr. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, comme un 5 étoiles par exemple. Ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir s'il vous est utile ou non. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour prolonger les échanges. Dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement les contenus de votre interface web ou mobile, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao!